Silence ! Moteur ! Ça tourne ! Action !
C'est vous qui parle, mon amour.
Les rencontres cinématographiques.
Cinéma.
Et c'est maintenant les rencontres, le programme du mois de décembre avec Caroline Portalbord.
Bonjour.
Et Marie-Paul Forcioli Didier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Oui, alors ce mois de décembre revient un peu à la normale après un mois de novembre avec notre festival Histoire d'un regard qui a été très riche avec trois invités et un public nombreux, plein d'animations. On revient à un programme de novembre plus classique, on va dire, avec des séances...
Un programme de décembre.
De décembre, je suis encore dans le festival. Ouais. Voilà, avec un programme de décembre un peu plus classique, avec notamment plusieurs films, mais aussi quelques partenariats intéressants quand même, qui sortent un peu du commun. Alors, on commencera mardi 5 décembre à 20h30 avec un film de la réalisatrice suisse Delphine Le Hérissé, un film qui s'appelle Last Dance, une comédie avec François Berléand. Et c'est un film qui est plutôt une comédie douce amère. Et François Berléand est parfait dans son rôle de vieux bougon, tendre et pudique. C'est un film dans lequel il est un retraité, jeune veuf, et qui va retrouver le goût à la vie à travers la danse contemporaine.
Et on a vu l'extrait, on va écouter la bande-annonce d'ailleurs, et ça donne vraiment envie de le voir, ça a l'air...
Ouais, je voudrais rajouter un petit mot. Moi, en faisant mes recherches, j'ai entendu la réalisatrice, donc Delphine Le Hérissé, qui disait que ce qui l'intéressait, c'était de réfléchir sur la famille, et elle avait voulu faire de ce film... donner de la légèreté à quelque chose de très grave. Et que c'est Berléand qui l'a contacté pour le rôle. Et ils ont eu une rencontre assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas sourcillé pour l'engager. Et lui-même n'a pas lu le scénario sous le même angle qu'elle avait écrit. Et ils se sont entendus. C'est-à-dire, lui, il a vu... cette tragédie du deuil, alors qu'elle elle voulait en rendre un peu léger cette tragédie, et ce rapport à la danse contemporaine avec Ribot, qui elle aussi a fait une rencontre avec la réalisatrice. Donc c'était très intéressant de voir l'optique dans laquelle elle présentait son film, et je pense que ça correspond bien à l'esprit de décembre, de Noël, où pour moi, au moins, les personnes qui sont seules, les personnes qui vivent des deuils, c'est une période qui m'apparaît un peu douloureuse. Et là, on a choisi ce film pour y mettre un peu de légèreté et de rire. Voilà, je voulais rajouter parce que j'ai trouvé son interview intéressante.
Alors, on écoute la bande-annonce de Last Dance.
Ma chère Lise, je pense à toi. Tout le temps.
Elisabeth, t'apporteras les repas. Et moi, je suis disponible à 24. On va vraiment se relayer le plus possible.
Il m'a appelé plusieurs fois, ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que t'es désorienté en ce moment?
Non, mais c'est lui qui devrait se soigner.
Elle t'a pris ta tension, au moins?
Ma tension descend quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine.
D'accord.
Les répétitions, c'est tous les jours?
C'est tous les jours, oui, de 11h à 18h et parfois le week-end.
Ah, quand même, oui.
Okay.
C'est pas de la danse que vous faites, là, si?
Moi, je suis sûr que vous pouvez y arriver.
Il est vraiment unique, ce type.
Unique, c'est pas forcément une qualité.
Très, très bien.
Tu décroches, s'il te plaît.
Oh, quoi encore? Je mets pas ça, moi. J'ai mes limites, moi. Et puis quoi encore?
Clairement, les échauffements, uniquement avec Samir.
Papy?
Je savais pas que je devais passer. ta présence, Lisa. Je la sens quand je danse. Ton sourire me manque.
Voilà, Last Dance, donc mardi 5 décembre à 20h30.
Tout à fait. Et la même semaine, nous aurons une autre séance, le vendredi 8 décembre à 18h cette fois, pour un ciné-débat organisé en partenariat avec Inner Wheel Club de Digne-les-Bains. Et ce partenariat est issu donc de leur victoire, on va dire, au trophée coup de cœur de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Donc l'Inner Wheel Club de Digne a participé et a été sélectionné parmi 200 candidatures pour être lauréat de ce prix coup de cœur et pour son partenariat avec la Maison de protection des familles. Donc ce ciné-débat sera sur le thème des violences faites aux enfants et sera en présence de l'aide sociale à l'enfance, la Maison de protection des familles, mais aussi des psychologues, des avocats. Et ce sera pour le film La maladroite d'Éléonore Fauché, avec notamment Isabelle Carré et Émilie Dequesne. Et c'est sur l'histoire d'une petite fille qui est joyeuse, exubérante, mais qui est souvent absente. Et l'institutrice va commencer à se poser des questions quand elle découvre des bleus sur le corps de son enfant. Les parents justifient cela par une santé fragile, mais malheureusement, un doute s'installe et un jour, la famille déménage sans prévenir. Donc, une enquête va suivre. Et il y aura donc une discussion à l'issue de la projection avec différents intervenants.
Donc, vendredi 8 décembre à 18h, salle des rencontres cinématographiques au Centre culturel René Char. On écoute la bande-annonce ?
Oui, La maladroite d'Éléonore Fauché.
Une petite fille arrachée à l'enfance.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je suis tombée.
Inspirée de faits réels.
Et tu te fais souvent mal comme ça ?
Oui, je suis maladroite.
Le combat d'institutrice Courage.
Je comprends pas, si le père la maltraite, pourquoi la mère fait rien ? Si je le dénonce et que je me trompe, tu te rends compte ?
Face à la pire des abominations.
Stella n'a pas peur de ses parents, elle serait pas comme ça s'il la maltraitait.
C'est rarissime un enfant qui ose dénoncer ses parents.
Récit d'un dysfonctionnement ordinaire.
Alors est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ?
Je peux aller faire pipi.
Voilà, la maladroite.
Un sujet très difficile, mais qui est aussi nécessaire à aborder, notamment avec des intervenants tels que la Maison de protection des familles ou l'aide sociale à l'enfance.
Là aussi, je voudrais rajouter un petit mot à titre personnel. J'étais enseignante et je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, malheureusement, ça, ce n'est pas que du cinéma. C'est bien dans la réalité et c'est compliqué de gérer ces situations. Voilà, je voulais rajouter parce que ça existe.
Ça existe, oui.
Encore une autre date qui est un peu insolite. Nous aurons une projection le lundi. Lundi 11 décembre, à l'occasion de la Journée internationale de la montagne, nous avons été sollicités par le Géoparc de Haute-Provence pour organiser des projections sur le thème de la montagne pour célébrer la montagne à l'occasion de cette journée internationale. Et nous aurons donc deux projections. À 18h15, un documentaire, puis un film de fiction à 20h30. Pour 18h15, c'est « Dessine-moi un chamois » d'Éric et Anne Lapier, un documentaire qui évoque leur vie, puisqu'ils sont cinéastes animaliers et ils vont montrer à travers ce documentaire comment ils ont initié leur petit-fils, Colin, 9 ans, qui est un vrai petit citadin, à leur métier. Donc, Éric Lapier a emmené son petit-fils Colin en montagne pendant 3 ans, à la recherche de différents animaux, le chamois, l'aigle royal ou le bouquetin. Et à travers cette expérience, Colin a appris petit à petit la patience, la persévérance, la modestie, et beaucoup de qualités que nous offre la nature. Et il était au début peu enthousiaste et finalement il s'est pris au jeu et a découvert toutes ces merveilles. Le documentaire a été tourné dans le parc national du Grand Paradis qui se trouve entre le Val d'Aoste et le Piémont. Et c'est un documentaire qui transcrit également la transmission d'une génération à l'autre de l'amour de la montagne et de la faune sauvage. Donc un documentaire qui plaira aux petits et aux grands et que nous passons le 11 décembre à 18h15. Dessine-moi un chamois.
Et on écoute la bande-annonce, évidemment. Dessine-moi un chamois.
Oh, moi, je suis trop contente d'être ici.
Ouais.
Ouais.
C'est la première fois que tu bivouaques ?
Ouais. Vraiment, c'est la première des premières fois.
Mmh. Bah là, j'en ai marre, voilà. J'en ai marre et j'ai envie de rentrer à la maison.
Non, j'ai cru voir quelque chose.
Où ça? Renard.
Nous sommes restés une heure sans rien voir.
Ça commence bien.
T'as vu combien de chamois?
Trois.
Trois. Il y a, ils sont par là.
Bah, il y a des animaux qui ont besoin de froid pour vivre. Et donc, s'il n'y a plus de froid, et ben, ils devront s'adapter. Ou il y en a qui y a des espèces qui vont disparaître.
Papy, c'est où ton coin à lièvre?
Ben, plus loin. Il faut avancer, chercher. Puis il change de coin régulièrement.
Voilà, ça donne envie aussi d'y aller.
Voilà, alors là, je voudrais aussi rajouter un petit mot. C'est que l'année dernière, on a commencé ce partenariat avec le Club Alpin et la soirée était véritablement agréable, plein de dynamisme. Et ça répond à une attente des Dinois qui vivent dans un cadre naturel et beaucoup, beaucoup, beaucoup s'intéressent à cette question. Et donc, on est très heureux de renouveler ce partenariat avec, cette fois-ci, le Géoparc et le Club Alpin, parce que ça répond à un besoin dans notre cité.
Voilà. Et le vice-président du Club Alpin de Digne, donc Bernard Tron, sera présent aussi pour accompagner les séances et éventuellement répondre à des questions du public. Le Géoparc ensuite offrera une petite collation et proposera un quiz des cimes qui sera diffusé dans le hall du Centre culturel René Char. Donc un petit moment convivial prévu entre les deux séances avant d'attaquer la deuxième projection avec le film La Montagne réalisé par Thomas Salvador, qui est réalisateur-comédien, avec également Louise Bourgoin. Donc celui-ci, c'est un film plutôt drame fantastique et l'histoire d'un ingénieur parisien, Pierre, qui se rend dans les Alpes pour son travail. Qui va être attiré par la montagne, il s'installe en bivouac, en altitude, et décide de ne plus en redescendre. Et là-haut, il fait la rencontre de Léa et il va découvrir de mystérieux phénomènes. Donc c'est un film contemplatif et paisiblement beau. Mais aussi, ce qui est particulier avec ce film, c'est que le tournage a été vraiment effectué en montagne, en haute altitude, 3800 mètres, et cela a altéré un peu le jeu des acteurs, ce que l'on voit à l'écran, donc la respiration profonde, des grelottements. Et vraiment, ils ont eu des difficultés à suivre l'aventure comme ça là, se fait habituellement sur un plateau de tournage classique. Donc c'est vraiment une expérience particulière qui se retrouve dans le film. Et il y a également des paysages superbes, puisque le film a été tourné au massif du Mont-Blanc. Et ce film a reçu le prix de la SACD, qui est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Voilà, c'est une fable écologiste doublée d'une histoire d'amour. Et on peut aussi noter que pour les critiques du magazine Positif, c'est un des films les plus audacieux, les plus fascinants et les plus accomplis de ces dernières années. Donc vraiment un film à ne pas manquer avec Louise Bourgoin et Thomas Salvador le 11 décembre à 20h30.
Et on écoute la bande-annonce, La Montagne.
Vous êtes alpiniste?
Oui.
Vous n'êtes pas sûr?
Si.
On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble.
Salut Pierre, c'est Léa.
Ben, je voulais prendre tes nouvelles.
Pierre!
Il s'est passé quelque chose?
Non, rien de spécial.
C'était très court.
Voilà, c'est une autre ambiance. Ouais. Et c'est aussi une ode à la douceur pour se reconstruire et aussi se questionner sur comment trouver une place dans le monde, comment trouver sa place. Voilà, ça, c'est la programmation du 11 décembre. Donc, une double séance pour la Journée internationale de la montagne.
Peut-être préciser, exceptionnellement, c'est un lundi et non pas un mardi. Qu'on que nos habitués.
Oui, nous n'aurons pas de séance le mardi 12, voilà, hein. Mais le, deux films le lundi 11. Pour le lundi 11. notre programmation se poursuit avec le mardi 19 décembre, trois événements dans la journée. Pour commencer, un ciné-café en partenariat avec le CSAS, le centre d'animation Pigeonnier-Barbejas et le centre culturel de la ville de Dinébin. Donc le ciné-café, c'est un concept que notre public connaît bien maintenant. C'est l'occasion donc de se retrouver avant le film pour discuter, boire un café et d'assister ensuite à la projection pour un petit tarif de 3 euros. Tarif unique.
Est-ce que ça fonctionne bien ? Il y a du monde ?
Oui. Alors auparavant, c'était le ciné petit-déj.
Oui. Ciné petit-déj. Oui.
Il avait lieu donc en matinée et puis après le Covid, je crois qu'il a été décidé de reprendre ça sur l'après-midi parce que certaines personnes trouvaient que c'était un moment plus opportun pour venir au cinéma, que le matin, les gens sont affairés, certains font le ménage, le repas de midi, les mamans qui doivent aller chercher les petits à l'école. Voilà. Donc là, c'est sur un créneau 14-16 en moyenne où les mamans notamment, ou les personnes âgées peuvent venir aussi.
Oui, on a changé la formule par rapport à la disponibilité.
Et c'est
public.
Pas mal.
Oui, et puis c'est vrai qu'on a régulièrement du monde. Et c'est aussi intéressant parce que quelquefois, on a des adultes en formation qui viennent, par exemple du CFA ou des élèves de l'école de la deuxième chance, par exemple. Donc on a aussi du public, on va dire, étudiant, mais adulte, qui peut venir sur ces séances-là, notamment en fonction de la thématique du film. On a beaucoup de seniors également qui viennent parce que certains disent que le soir, ils ne veulent plus sortir. Ils ont
on tient plus le coup.
Ils n'ont pas la voiture, ils ont pas envie de sortir dans la nuit. Enfin, voilà. Donc, ouais. C'est vrai que c'est un créneau qui change. On a sûrement moins de travailleurs, puisque c'est en plein après-midi. Mm-hmm. Mais il y a aussi des gens qui ont des horaires décalés et qui peuvent trouver leur compte sur cet horaire-là. Donc, pour le 19 décembre, la projection aura donc lieu à 14h. C'est Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris. C'est un film avec Louane Emera, la jeune chanteuse révélée dans La famille Bélier, qui est également actrice, Michel Blanc et Victor Belmondo. Et ce sera donc plutôt sur le thème de la comédie dramatique. Donc l'histoire de cette jeune femme, Marilyn, 20 ans, qui est une serveuse énergique et bruyante, qui va rencontrer un juge bougon et déprimé, joué par Michel Leblanc, qui l'engage comme chauffeur. Et cette rencontre va vraiment bouleverser leur vie. Et c'est donc une éloge de la rencontre et montrer que deux personnages peuvent s'apporter beaucoup lorsqu'ils se rencontrent. Et c'est adapté d'un livre, « Changer le sens des rivières », écrit par Muriel Magellan, ce qui a été paru en 2019. Ce film est un duo montre un duo un peu improbable sur papier, mais qui semble évident à l'écran. Et c'est un film qui, selon les critiques de Avoir à lire, rend hommage de cette manière à Truffaut et à la Nouvelle Vague. Et c'est un rayon de soleil sur les écrans de cinéma, donc une comédie charmante. Où affleure également la mélancolie.
Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris, on écoute la bande-annonce.
Bonjour.
C'est pas vrai, merde.
Non mais Marilyn, ça va pas du tout.
Pourquoi tu m'as pas rappelé?
Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là? Qu'est-ce que tu fais là?
Embrasse-moi.
Arrête là.
Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas.
Monsieur le Président ?
C'est monsieur le juge.
Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance ?
Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque.
C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça.
T'as besoin d'argent ? Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
Bah, évite la bonne humeur.
Mais à quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose ?
Qu'est-ce qui te fait rire ?
Symbiose ? C'est quoi ce mot ?
Tu regarderas. Intéresse-toi, cultive-toi.
Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche.
Donc, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça.
Vous avez quelqu'un, en fait. Elle est hyper belle, en plus, hein. Faites-moi confiance.
Quoi?
Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. Vous étiez tellement en symbiose.
T'as tout pour réussir. Redresse la tête, saute la barrière.
Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup.
Mais j'ai jamais dit ça.
Ah ouais.
Voilà, Marilyn et son juge, à 14h, mardi 19 décembre.
Oui, et le même jour, donc un deuxième rendez-vous. Là, c'est un partenariat avec l'association Vallée du Besse qui propose une soirée spectacle pour le lancement de leur BD, 300 millions d'années et un jour. Une BD réalisée par Bernard Nicolas et Hervé Jacquemin, enfin, écrite par Bernard Nicolas et illustrée par Hervé Jacquemin, qui est produite par l'association Vallée du Bès. Et il propose donc un spectacle en deux parties. À 18h15, Ichthyosaurus Loufokésis, un spectacle de la compagnie Rire et Sourire. C'est une performance théâtrale paléontologique. Un regard surréel sur un animal datant de 200 millions d'années. Spectacle qui dure 50 minutes pour les familles, pour tout public. Et ce spectacle sera suivi du spectacle BD Concert. Et ce sera donc les images de la BD projetées sur grand écran, d'après la BD qui sortira le même jour, avec une musique live par Véronique Giroux et Pierre Nicolas. Donc c'est un programme qui va durer 1h20 et qui est gratuit. Donc pour les renseignements, c'est au 06 64 47 09 44. Il y a également toutes les infos sur le site valleedubesse.fr, si je ne me trompe pas, sur l'association de la Vallée du Besse. Et il y aura la vente de la BD à l'issue du spectacle. Donc c'est vraiment une proposition de l'association pour le lancement de leur BD. Et nous avions passé auparavant leur documentaire « Un jour, la mer se retira »,
voilà,
qui avait eu un grand succès et qui a été diffusé dans de nombreuses salles de cinéma et salles communales suite à la réalisation du documentaire. Et c'était vraiment une très belle production. Et on repropose donc, en partenariat avec cette association, ce petit spectacle.
Et vous vous rappelez quand est-ce que c'est ?
Alors, ce sera le 19 décembre à partir de 18h15. 18h15, il y aura donc le spectacle théâtral, puis la BD concert pour un spectacle d'une durée d'1h20 et c'est gratuit, organisé donc par l'association Vallée du Besse.
Et ce sera toujours salle des rencontres ?
À la salle des rencontres.
D'accord. Oui. Parce que ça, vous ne l'avez pas inscrit sur le programme.
Non, par manque de place. Et
d'accord.
Comme c'est des spectacles, mais ce n'est pas purement en du cinéma,
ouais.
on le note et on voulait le mentionner quand même
d'accord.
aujourd'hui. Parce que ce sera également une belle proposition pour les familles également. C'est cet horaire-là qui a été sélectionné pour que justement le plus grand nombre puisse y assister et découvrir cette BD qui plaira tout autant aux enfants qu'aux adultes. Et pour clôturer notre programme de décembre, un film de Noël. Alors, pour le moment, c'est encore sous réserve parce qu'on n'a pas réellement l'accord du producteur, du distributeur, mais normalement, ça devrait marcher. Ce sera « La vie est belle » de Frank Capra. Et c'est le film culte aux États-Unis qui passe tous les ans à la télé. C'est vraiment leur film fétiche, un véritable trésor du patrimoine national qui est vraiment diffusé chaque année et c'est une très belle comédie de Noël, un peu fantastique, puisque c'est l'histoire donc de Clarence, un ange de seconde classe, qui attend l'opportunité de gagner ses ailes en réalisant une bonne action. Et c'est à ce moment-là qu'il voit George Bailey, qui est sur le point de se suicider, et qui va le sauver. Et on se demande comment en est-il arrivé à envisager de commettre l'irréparable, et le film nous entraîne dans son passé. Donc un film de Frank Capra avec James Stewart, qui avait déjà été vu dans l'extravagant Mr. Deeds, ou encore Vous ne l'emporterez pas avec vous, donc réalisé par Capra. Mais James Stewart, c'est l'acteur fétiche aussi de Hitchcock. Mm-hmm. La corde, fenêtre sur cour, sueur froide. Et on l'a aussi vu donc, dans L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, qu'on avait programmé pour notre festival western. Et c'est une comédie qui donne du baume au cœur, vraiment. Et cette période des fêtes de Noël constitue une période idéale pour découvrir ou revoir ce chef-d'œuvre de Frank Capra. Et c'était le film préféré de James Stewart et Frank Capra également. Voilà.
Et ça fait partie de ces grands, grands films dont certains disent c'est le film que...
Les incontournables.
Voilà, ouais. Les incontournables. C'est, pour certains, c'est le premier du Panthéon. Voilà. Donc, dans ces fêtes de Noël, on a trouvé que c'était un film qui illustrait bien ce mois de décembre. En espérant qu'il soit programmé.
C'est difficile d'obtenir des films quand vous faites votre programmation.
Je dirais que ça dépend de la date de sortie du film. Là, c'est un film qui date de 1946. La copie n'est plus disponible en France. On peut seulement avoir des copies numériques sous format Blu-ray, par exemple. Et le distributeur passe par... Enfin, le circuit distribution est plus difficile que lorsqu'on passe un film récent comme Marilyn et son juge ou même Last Dance ou La Montagne. Donc ça dépend vraiment des fois, mais comme on le disait la dernière émission sur le cinéma indien, certains films étrangers sont plus difficiles à obtenir. Certaines petites productions aussi vont être plus difficiles d'accès. Et pour les films étrangers, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes circuits parfois. Tous les films étrangers ne trouvent pas preneur en France, dans le milieu de la distribution. Et nous, on passe vraiment par différents groupes. Les plus connus seraient par exemple Pathé, qu'on voit souvent, ou Metropolitan Film Export. Bon. Mais on a plein d'autres petits distributeurs avec qui on aime bien travailler et qui nous donnent plus facilement accès à des films. Et le travail avec les distributeurs est souvent intéressant aussi parce que c'est eux qui nous fournissent les programmations, c'est eux qui annoncent les sorties à venir et parfois, si on a un interlocuteur privilégié, on a aussi l'occasion d'avoir des propositions du distributeur. On va demander la programmation d'un film et ils vont nous dire « Ah mais attendez, on va sortir celui-là bientôt, ça vous intéresse ?» Et ça a été le cas avec Marilyn et son juge.
D'accord.
On avait demandé la programmation d'un autre film pendant notre festival et le distributeur m'a répondu « J'ai un super film à vous proposer pour le mois de décembre, si ça vous tente. » Et on a regardé, comme ça nous a intéressé, notamment pour le public du ciné-café, on s'est dit « Ok, on fait comme ça. » Donc c'est vrai que le réseau des distributeurs est intéressant à partir du moment où on le connaît bien et qu'on fonctionne régulièrement avec eux aussi.
Donc on écoute « La vie est belle », sous réserve, donc. Enfin, sous réserve, « La vie est belle », mais le film est...
à confirmer, donc à voilà. Suivre sur notre site internet pour vérification de la disponibilité de la
pour
séance.
Pour le mardi 19 décembre, voilà. À 20h30. Oui. On écoute.
Wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life.
Don't you ever get tired of just reading about things?
Yeah. Hey, what are you doing tonight?
I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you...
Voilà, la bande... Oui.
Donc, La vie est belle, It's a Wonderful Life, est vraiment un conte de Noël et qui navigue entre la chronique provinciale, le mélodrame, la comédie et le fantastique. Et on passe souvent du rire aux larmes. Et il y a plein de trouvailles dans ce film qui sont vraiment incroyables. Et c'est un film aussi qui dépeint très bien la civilisation américaine et ses valeurs ancestrales et qui montre à quel point la solidarité aussi peut jouer un rôle crucial dans la vie. Donc, un très beau film pour clôturer ce programme de Noël.
Merci. Et puis, on va faire un petit retour sur ce festival Histoire d'un regard sur le cinéma indien qui s'est plutôt bien déroulé. Il y a eu relativement du monde.
Ah oui, on était vraiment contents, surtout qu'on a eu nos habitués, mais aussi des personnes nouvelles, certaines qui ont fait une heure de route pour venir à certaines séances. Qui ont appelé, réservé, pour dire oui, on vient, est-ce que c'est maintenu, on veut vraiment venir. Et puis de la musique, des photographies, un buffet, plusieurs films évidemment, dont des avant-premières, des exclusivités. Et puis Par exemple, on a eu la chance d'avoir, grâce à François-Xavier Durandy, qui est traducteur de l'audiovisuel et auteur de sous-titres, l'exclusivité d'avoir des petites vidéos d'introduction des réalisateurs, qui ont salué le public, qui disaient un petit mot sur les films qu'on allait voir, notamment sur les courts-métrages qu'on a passés le mercredi soir. Et c'est vrai que c'était plein de petites surprises comme ça, grainées au fil du festival, qui ont permis de rendre ça très festif et intéressant, avec un accompagnement pour quasiment chacune des séances, jusqu'à ce mardi, avec Charlotte Garçon, pour le magnifique film de Jean Renoir, Le Fleuve, qui a également accueilli un public nombreux et ravi.
Oui, je voudrais rajouter, quand... j'ai eu à accueillir le public pour la soirée d'inauguration. J'ai précisé que ce que j'appréciais dans l'idée de la culture, c'était l'ouverture à l'autre. Et François-Xavier Durandy a repris ce que je pouvais dire en disant « Mais vous n'avez pas conscience à quel point l'Inde, qui est très admirative du cinéma français, de savoir que leur film est diffusé en France, c'est aussi pour eux une grande ouverture. Et c'est comme ça qu'on a eu les mots des réalisateurs qui nous ont dit combien ils étaient heureux de projeter leur propre film. Et ça a été une bonne surprise de ce festival, entre autres. Et puis, je voudrais revenir sur cette soirée d'inauguration où on a pu offrir au public un concert et un buffet. Et c'était une soirée assez exceptionnelle au niveau du monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais de la convivialité et puis l'esprit de rencontre que le cinéma peut donner. Et il a bien fait son travail ce soir-là.
Donc on était très satisfaits. Oui, on peut revenir sur ce concert fabuleux qui nous a laissé presque en lévitation, c'est avec les gongs, les bols chantants et la flûte extraordinaire par Stéphane Thomas. Et donc les gongs par Dimitri Geskin, c'était vraiment... aussi agréable pour les oreilles que pour le visuel, cette installation.
Un vrai voyage, c'est vrai que c'est ce qu'il voulait proposer. C'était des rêveries indiennes, mais aussi un voyage sonore. Et c'était un programme composé spécifiquement pour cette soirée-là. Vraiment, ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient proposer. Ce n'était pas des musiques déjà créées. Ça a vraiment été conçu spécifiquement pour ce soir-là d'inauguration. Donc, c'était vraiment très chouette. Et pour revenir à ce que disait Marie-Paul il y a deux minutes, une phrase qui est restée en moi pour quelques temps, je pense, c'est quand François-Xavier a dit que nous, on voulait faire une ouverture sur l'Inde, mais pour les Indiens, effectivement, maintenant, ils savent où est Digne-les-Bains, sur une carte. Ils connaissent ces rencontres cinéma, donc c'est un vrai échange. On propose leurs films ici, mais eux savent que des Dinois et des gens du coin ont vu leur film à Digne-les-Bains en France, et la France, pour eux, c'est quand même... c'est particulier, c'est quand même un des pays qui propose un cinéma très qualitatif et qui est très apprécié, avec des festivals connus mondialement, comme d'autres pays. Mais quand même, François-Xavier nous expliquait qu'il y a un rapport particulier entre l'Inde et la France au niveau du cinéma.
Et que ça remonte à très très loin. C'est pas nouveau, c'est pas un engouement récent. Ça remonte au début du cinéma et de leur propre industrie cinématographique, dont on a découvert que c'était la première mondiale. Je m'étais jamais penchée sur la question, mais voilà, c'est eux qui produisent le plus de films au monde, les Indiens.
Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée avec Charlotte Garçon à propos de ce film Le Fleuve Noir. À Digne-les-Bains, le film de Jean Renoir, Le Fleuve, clôturait le festival de cinéma Histoire d'un regard, cinéma indien, organisé par les rencontres cinématographiques. En présence de Charlotte Garçon, un débat était organisé donc à l'issue de la projection du film. Charlotte Garçon est critique de cinéma et rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma. Elle intervient sur France Culture dans les émissions La Critique et Plan Large. Elle est également auteure de Jean Renoir aux éditions Le Monde, Cahier du cinéma, de Amoureux, Cinémathèque française Actes Sud Junior et Le cinéma hollywoodien, CNDP, au Cahier du cinéma. Retour sur cette soirée de clôture du festival Histoire d'un regard à Digne-les-Bains. Je vous propose d'écouter Charlotte Garçon au micro d'Odile Frison. On l'écoute. Charlotte Garçon, invitée par les rencontres cinématographiques pour la projection du film Le Fleuve de Jean Renoir, un film de 1951. Est-ce que vous voulez nous parler de ce film qui est un classique du cinéma français ?
Alors, ce n'est pas un film français, car Jean Renoir était un grand cinéaste français, bien sûr, dans les années 30, mais à la fin de 1940, il a émigré aux États-Unis pour pouvoir continuer à travailler comme cinéaste sans se compromettre avec l'occupant, puisqu'il était un grand artiste qui aurait eu des appels du pied de l'occupant. Donc il est parti aux États-Unis et en 41 ou 42, il a acquis la nationalité américaine et il a vécu en Californie de manière très heureuse pendant des années, mais de manière moins heureuse à Hollywood. Il a fait 5 films, mais difficilement, parce que les contraintes des studios hollywoodiens étaient différentes de ce qui se passait en France. Et donc Le Fleuve, c'est un film charnière parce que il ne va pas réussir à... Il lit ce petit roman autobiographique de Rumer Godden, une Anglaise qui a vécu, qui a grandi à Calcutta. Il le trouve très intéressant, il veut en faire un film. Il le propose aux studios hollywoodiens qui disent « ça coûterait trop cher si on voulait en faire un film commercial parce qu'il faudrait des éléphants, etc. » Lui ne veut pas ça. Et donc il trouve un privé qui lui veut devenir producteur, une sorte de millionnaire self-made man qui le finance. Alors, Le Fleuve, The River, en anglais, c'est le 32e film de Jean Renoir, mais c'est son premier film en couleur. Et en Technicolor, c'est très difficile de tourner en Inde en Technicolor. C'est très lourd. D'abord, la caméra, il y a 3 objectifs. Ça pèse 100 kilos. Donc, c'est vraiment une aventure incroyable qui fait avec, en partie, sa propre équipe et en partie, une équipe locale. Dont d'ailleurs, sur le tournage, il y aura un étudiant qui est devenu ensuite un grand cinéaste indien qui était Satyajit Ray. C'est un film tourné donc véritablement en Inde, mais qui parle d'une petite fille, d'une fille de 12 ans, et de son entourage, de sa famille, et aussi de la naissance de sa vocation d'écrivaine, en fait. On peut y reconnaître, d'ailleurs, Jean Renoir lui-même. Hein. Ça arrive que des cinéastes de 55 ans se projettent dans des petites filles, et c'est le cas, je crois, dans Le Fleuve. On voit donc la vie de cette famille britannique qui vit à la fois protégée, d'une certaine façon, du pays qu'ils connaissent assez mal, et en même temps, ce que fait Jean Renoir, c'est qu'il ouvre cette maison au monde, à l'Inde, aux Indiens, et notamment en rajoutant au roman un personnage de jeune fille métisse, c'est-à-dire que sa mère qui est morte était indienne et son père est anglais.
Qu'est-ce qui différencie, oui, ce film, vous l'avez dit, c'était le premier film en couleur, mais qu'est-ce qui le différencie des autres films de Renoir ?
C'est un film dans lequel Renoir invente la couleur. Alors c'est étonnant parce que lui, qui est le fils du peintre Pierre-Auguste Renoir, l'un des 3 fils, il a grandi littéralement dans la couleur puisqu'il mélangeait les pigments de son père quand il était petit. Donc la couleur, il sait ce que c'est. Sauf que évidemment, c'est pas du tout la même chose quand on peint et quand on fait du cinéma. Et notamment quand on fait du cinéma avec ces machines dont on ne peut pas voir les rushs avant 2 semaines. Il faut que les rushs soient envoyés en Angleterre et reviennent ensuite. Donc on travaille à la fois à l'aveugle et à la fois en faisant que des décors naturels puissent s'accorder à vos désirs chromatiques, à vos souhaits. Donc avec son décorateur Eugène Lourier, il va faire repeindre un gazon, mettre des fausses fleurs achetées au bazar en papier à un arbre, etc. Pas du tout pour faire artificiel, mais parce qu'il a une idée de ce qu'il aura à l'arrivée. Donc d'une certaine façon, quand on est fils de Pierre-Auguste Renoir, on a toujours une sorte d'exigence de la couleur, de la forme. Alors est-ce que c'est un film tableau ? Pas du tout. Parce que c'est un film sur le mouvement de la vie et de la mort, sur le côté cyclique. Ça a été une grande découverte, disons, pour Jean Renoir. Et à sa suite, d'autres cinéastes vont aller en Inde, comme Roberto Rossellini, l'Italien, ou Louis Malle, après eux. Et donc, Renoir a découvert aussi toute la philosophie, disons, hindouiste. Et d'ailleurs, l'actrice, l'une des actrices principales du film, qui joue cette jeune fille métisse, était une jeune femme qui était en fait docteur en théosophie et qui pratiquait la danse ancienne, rituelle, sacrée. Et il y a une séquence extraordinaire de danse dans le film. Donc c'est un film très composite. Il y a bien une histoire, il y a une histoire d'amour. Les 3 adolescentes tombent amoureuses d'un visiteur beaucoup plus âgé, enfin... Il y a une romance, il y a tout ça. Et en même temps, il y a l'histoire de ce cinéaste français qu'on voit en train de découvrir un monde, en fait. Il découvre pas seulement un pays, il découvre une vision du monde et ça a véritablement changé sa vie. Vous êtes invité par les rencontres cinématographiques ce soir. Quel est pour vous l'enjeu ?
Alors, je suis très attachée aux Alpes de Haute-Provence, enfin avec ma modeste connaissance de parisienne que je peux avoir de ce pays, puisque ça fait une trentaine d'années, oui, un peu moins, depuis 1995, que je suis venue pour la première fois grâce au Centre Jean Giono qui organisait pour la première fois une randonnée autour des textes de Giono, des paysages imaginaires et vécus de Jean Giono. Et puis, je suis restée en lien avec notamment son organisateur Jean-Louis Caribou et les autres personnes. Et puis, c'est devenu une amitié liée à ce territoire. Donc, on se retrouve dans différents endroits, villages, lieu des Alpes d'Haute-Provence. Donc, quand les rencontres m'ont fait signe et m'ont demandé de venir présenter ce film, j'ai dit oui tout de suite parce que ça me ramène dans les Alpes d'Haute-Provence. Et je pense véritablement qu'il y a un lien entre l'intensité du paysage qu'on peut voir dans un film comme Le Fleuve de Jean Renoir et la force des éléments qu'il y a dans les paysages de Haute-Provence.
Est-ce que vous avez envie de parler des livres que vous avez écrits pour les Cahiers du cinéma ?
Alors, j'ai écrit quelques petits livres sur le cinéma. L'un qui est consacré à la rencontre amoureuse dans les films, qui est plutôt destiné à des adolescents ou des jeunes adultes. Mais je pense que quand on est adolescent, on n'a pas envie que le livre soit étiqueté adolescence. J'ai écrit aussi donc un livre sur Jean Renoir. Il n'est pas très long, mais il essaye de traverser véritablement tout le parcours de Jean Renoir, que ce soit dès sa période muette, en fait, parce qu'il a commencé quand le cinéma était encore muet, puis ensuite ses chefs-d'œuvre que sont La Grande Illusion, La Règle du Jeu à la fin des années 30, et puis ensuite d'autres chefs-d'œuvre comme Le Fleuve et comme French Cancan. Donc ce que j'aimerais, c'est que ces films soient encore plus montrés en salle et qu'ils redeviennent vraiment le cinéaste important qu'il a toujours été. Mais bon, j'ai écrit donc quelques livres, mais mon activité principale, c'est quand même la critique, à la fois sur France Culture, la radio et en même temps dans les Cahiers du cinéma. Et donc, ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens, d'abord, bien sûr, continuent à aller en salle, mais aussi aient une pratique de lecture de la critique. Parce que je pense que d'une certaine façon, la critique, même quand elle est négative, et on ne se prive pas d'écrire des critiques négatives au cahier, elle rend possible, disons même, l'existence des œuvres, en fait. Parce que les gens, même sans le savoir, et même s'ils ont peur de ce qu'on va écrire sur eux, ils ont le souhait qu'il y ait un spectateur attentif. Et c'est vrai que pour nous, passer du temps à aller voir un film, mais à prendre des notes, à réfléchir et à faire un texte, c'est une façon de prendre très au sérieux les films. Ils passent tellement vite sur les écrans que je pense que la presse écrite a encore quelques jours devant elle.
Vous pensez que c'est important pour le public de voir d'abord la critique d'un film avant de se décider à y aller ?
Alors je dirais que le mieux, c'est d'aller d'abord voir le film et d'avoir une publication critique qu'on a identifiée, qu'on aime bien. Avec ses têtes, on a ses têtes, comme quand on écoute des émissions de débats critiques. Et puis, de lire les textes après, plutôt. Et donc, en tant que spectateur, de prendre le risque d'aller voir un film ou non, un peu à sa tête, quoi, un peu à son affiche, à son casting, à ce qu'on a envie. Et puis, ensuite seulement, de se plonger dans le texte, parce qu'il y a un cheminement à l'intérieur du texte. Et un texte, c'est un peu le contraire d'une note qu'on mettrait. Les gens croient qu'on est là comme des profs à évaluer les films, et en fait, pour nous, c'est le contraire. Écrire un texte, c'est essayer de construire un chemin pour mieux comprendre, tout simplement, pour avoir une idée plus nette de l'expérience qu'on a eue pendant 2 heures.
Comment on devient critique de cinéma ?
Alors, comment on devient critique de cinéma ?
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour devenir critique ?
Si je savais comment on devient critique de cinéma, peut-être que je ne serais pas devenue. Je pense qu'il y a une cinéphilie, enfin un amour des films qui doit être soit dans l'enfance, comme c'est mon cas, soit dans l'adolescence. Mais enfin, il faut aimer voir des films, et beaucoup, des bons, des mauvais, de toutes époques. Et je pense que c'est important d'avoir l'impression que des films, entre guillemets, anciens, parce qu'on ne dit pas des livres anciens. Quand on lit un livre du 19e siècle, on ne dit pas c'est un vieux livre. Bon, donc il n'y a pas de vieux films. Déjà, je pense que quand on a ce sentiment-là, on est quand même bon pour la critique. Et la deuxième chose, quand même, c'est le travail de l'écriture. Alors bien sûr, on peut tout à fait être critique à l'oral, mais je pense qu'il y a un travail, un amour un peu littéraire, disons, du travail du texte, qui doit essayer de se hausser au niveau d'exigence du film. C'est-à-dire que c'est trop facile de juste donner son opinion comme ça, vite fait. Donc il faut aussi nous-mêmes avoir travaillé. On a tout à fait conscience qu'un film, c'est du temps, de l'argent, c'est un investissement très fort de son créateur en général. Et donc, on ne traite pas ça par-dessus la jambe. Donc ça veut dire qu'il faut un travail d'écriture conséquent.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, Charlotte Garçon, donc
ah oui,
c'est intéressant.
Hein, très intéressante, oui, oui. Là, on a beaucoup apprécié le public, et puis elle a une... Voilà, c'est une pointure, quoi, hein, au niveau de la critique, effectivement, c'est pas discutable, elle est excellente.
Merci. Oui, juste, je voulais dire, ce qui était aussi agréable, c'est que lorsqu'on lui a proposé d'intervenir... Effectivement, elle a dit oui de suite, mais c'est aussi parce que Le Fleuve est un film qu'elle affectionne tout particulièrement. Et elle était à la fois ravie de pouvoir présenter ce film au public des Rencontres Cinéma, mais aussi de revenir dans les Alpes de Provence, comme elle l'a dit. Et on sentait son amour pour ce film lorsqu'elle en parlait aussi, et son envie de partager tout ce qu'elle connaissait sur ce film et sur Jean Renoir. Donc, c'est vraiment...
Moi, pour avoir lu son livre, effectivement, on sent que c'est son film, le film qui est... dans lequel elle est entrée et qu'elle entre. Et quand elle a fait le commentaire après le film, moi, j'ai été impressionnée sur la synthèse qu'elle a pu faire du film en disant de ce dernier qui traitait la question du manque. Et c'était exactement ça. Enfin, vraiment, l'œil de la critique qui peut nous donner les clés pour... Et j'aime bien, dans cette interview que je découvre... cette idée de voir d'abord le film et de lire après les critiques. Parce que je sais que c'est ma pratique, mais oui, je pense qu'il faut d'abord voir le film. Parce qu'après, on le regarde quand même par ce prisme. Et voilà, on n'est peut-être pas aussi libre d'exercer soi-même son discernement et son jugement. Et là, la critique nous donne la main quand on veut revenir sur un film.
Et au sein de notre association, on essaye autant que faire se peut de visionner les films avant de les programmer.
Oui.
Et c'est agréable parce qu'après, certaines fois, le public nous dit « Ah, mais nous, on ne regarde même pas ce que vous programmez, on vient. Quoi qu'il arrive, on vous fait une confiance aveugle. On vient, on découvre le film et on sait qu'on verra quelque chose de bien parce que vous aurez fait une bonne sélection. » Donc c'est vrai que les gens ne vont pas forcément toujours chercher à lire la critique avant, même si certains le font régulièrement, je pense. Moi, ça m'arrive évidemment aussi. Mais voilà, c'est bien aussi de se dire qu'on sélectionne les films afin que le public puisse venir et passe un bon moment. Après, libre à chacun d'aimer ou non, hein, de toute façon, c'est aussi ça.
Je pense que c'est important de découvrir le film et après de lire. Parce que on est quand même après influencé, quoi. Et donc, on voit des... Et moi, c'est vrai qu'il m'arrive de voir et de revoir des films et d'en voir... parfois de nouveau, quoi, en me disant « mais j'ai pas vu ça », ainsi de suite. Et là,
Et oui, il faut du temps aussi pour la dégustation.
Oui, voilà.
Bon, merci. Et puis, donc, bon cinéma à toutes et à tous pour cette belle programmation. Et on se quitte avec le générique réalisé par des jeunes, c'est ça, hein?
Oui, alors ce sont les ateliers d'éducation à l'image qu'on propose pendant les festivals Histoire d'un regard. Et là, je crois que si ma mémoire est bonne, c'était une classe de CM1, CM2 de Paul Martin qui avait réalisé cet atelier avec Mathilde Rebulida et Pauline Le Bélanger, donc un atelier jingle, création sonore et visuelle.
Et c'est très sympa. Merci, à bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci à vous.
Silence, moteur, ça tourne, action.
Ne me quitte pas, mon amour.
Les rencontres cinématographiques.
Cinéma.